1918. Il m'arrive de culpabiliser, car il y a des fois où j'oublie que mon quotidien n'a pas toujours été fait d'avalanches de gros noirs ou de pluies de balles de moulin à café. Parfois, alors que je suis dans mon lit d'hôpital, je ferme les yeux et je me remémore, le 16 décembre 1899. Je me vois, moi, Camille François Narat, aux cheveux et aux sourcils châtains, du haut de mon 1m78, me tenir devant ma magnifique femme, Louise Eugénie Thierry, et prononcer mes vœux de mariage. J'essaye, tant bien que mal, de me souvenir de mon enfance. J'entends ma mère me raconter pour la millième fois ma naissance, le 7 avril 1875. 1914-1915. Le front. J'y suis allée, puis je suis revenue en juin 1915. Qui aurait pu croire que l'on manquerait d'opticiens en plein milieu de la guerre? On peut dire que j'ai savouré ces quelques moments passés avec mes parents, Nicolas et Marie-Louise Narat. En juillet, je suis rappelée au front. Je quitte ma famille en espérant les revoir. 1915-1918. Pour supporter les tranchées, les totaux, la nourriture froide clairement immangeable, je faisais comme tous, j'écrivais. Que ce soit des lettres, des pensées, on le faisait juste pour nous enfuir de cet enfer. J'aimerais décrire ce que j'ai vu, seulement j'ai peur de ne pas trouver les bons mots. Je devrais vous raconter la première fois que je suis allée au front, ou encore mon premier assaut. Seulement j'ai bien peur que l'horreur que j'ai vécue m'ait fait oublier. Parfois nous rencontrions des journalistes de guerre. Ils nous demandaient de sourire sur les photos, de raconter des anecdotes qui pour moi finissaient par être plus semblables à des contes pour enfants qu'à la réalité. Les gueules cassées, certains disent que c'est la pire conséquence de la guerre, parfois sans bouche ou carrément sans mâchoire. À l'hôpital, j'ai vu de nombreux soldats ne plus se reconnaître, et il m'arrive parfois de penser, dans mon plus grand péché, que je préfère la mort par la maladie comme celle qui m'attend, plutôt que de vivre avec une gueule qui n'a plus rien d'humain. Avril 1918. Ma femme m'a envoyé de nombreuses babillardes, me racontant tout ce qu'il se passait à l'arrière. Nombreux sont mes poteaux qui ont succombé, tués par les puants ou encore transpercés par des pruneaux, laissant derrière eux femmes, enfants et amantes. Est-ce que j'en veux à l'État d'avoir menti ou de nous avoir embarqués dans une guerre totale? Je ne sais plus. J'avoue que j'ai du mal à y penser, car la seule chose qui occupe mon esprit, c'est mon mensonge. Lorsque j'ai reçu ma lettre de mobilisation, j'ai juré avec fierté et sans aucun doute sur ce que j'affirmais, que je reviendrai vite avec l'honneur d'un soldat et la fierté d'une victoire. Seulement, je suis sur mon lit, à l'hôpital temporaire de l'école Saint-Nicolas, à Issy-les-Moulineaux, sans fierté car cela m'est impossible avec tout ce que j'ai vécu ou vu, et sans aucune affirmation que la France restera la France. Mais surtout, j'avais promis mon retour glorieux à Montrouge. Ironie du sort, je ne pourrai jamais y retourner. Le 14 avril 1918, je quitte ce monde que je ne reconnais plus.